France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Chouchou, Jeannot, mon lapin, chéri, Pierrot, Bibou, personne n'échappe au surnom, qu'on le veuille ou non. Il y a comme une fatalité du surnom, de ce petit nom qui nous tombe dessus et qu'on a sur le bout de la langue, qu'on ne peut s'empêcher de donner à nos amis et surtout à nos amours. Comme si, malgré nous, on avait besoin de signifier quelque chose en plus, de montrer que cette personne, c'était pas n'importe qui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça ? Et comment moi, qui pensais être au-dessus de ça, suis-je tombée dans le piège du surnom Cucu ?
Voilà pourquoi autour de moi, faisant la joie des villageois, d'un sobriquet, on me prénomme.
D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance.
Bien poupoule, bien poupoule, bien.
Elle voulait que je l'appelle Venise.
They call me Hell, they call me Stacy.
You may call me Bobby, or you may call me Zimmy.
Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nénès et Mimi la blonde.
That's not my name, that's not my name.
Et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou.
On m'appelle Simplé.
Bonjour Julie Neveu, et vous, on vous appelle comment?
Ah, on m'appelle Julie.
Vous n'appelez pas Juju, Lily?
Alors si, si, selon les cercles en fait familiers, on m'appelle ouais, dans ma famille plutôt. Bah il y a Juju, il y a Jou, il y a eu. je m'arrête là en fait par pudeur.
Bah peut-être que vous nous direz comment on vous appelle dans l'intimité. On verra ça plus tard. Julie Neveu, vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Vous avez écrit, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez écrit Le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture. Comment les mots révèlent nos sentiments. C'est paru aux éditions Grasset. Et on va en particulier parler avec vous donc des surnoms cucu qu'on se donne quand on est amoureux, mais des surnoms aussi qu'on se donne en dehors en fait de l'amour. C'est quoi un surnom, Julie Neveu ?
En fait, un surnom, c'est pas vraiment une catégorie linguistique en soi, une étiquette linguistique, mais ça regroupe plusieurs phénomènes linguistiques qui consistent tous à rebaptiser une personne et qui vous est proche. Donc, si elle peut être proche d'un point de vue donc sentimental, parce que c'est votre partenaire amoureux, ou parce que c'est votre famille, ou parce que c'est un ami. Donc, c'est différents contextes, tous intimes, et en fait, où on observe qu'on éprouve le besoin, tous les locuteurs et les locutrices, et c'est le fait dans beaucoup de langues de rebaptiser la personne. Donc pourquoi ? Donc en fait, c'est une motivation qui est sentimentale, affective, c'est-à-dire que quand on se met à connaître quelqu'un, le langage enregistre la connaissance qu'on a de cette personne et on a besoin de marquer la différence. Et donc dans la façon de s'adresser à l'autre, on va faire varier à partir du prénom propre, du nom propre, et on va décliner selon le sentiment qu'on ressent. Et donc ça est plus ou moins marqué selon qu'on est dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, par exemple. Dans une relation amicale, ça va être souvent des surnoms qui sont en fait déjà existants, qui sont peut-être repris, peut-être même qu'on vous présente un Sébastien et qu'il est déjà appelé Seb par ses amis, et que quand vous arriverez à ce degré de familiarité, vous direz Seb naturellement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que mettons que vous ayez rencontré un Sébastien dans une relation potentiellement amoureuse, qu'il ait appelé Seb par ses amis, vous éprouverez sans doute le besoin, vous, de le nommer différemment, donc peut-être de dire Sébastien en entier. Donc il faut bien voir que le surnom, il inclut, on va dire typiquement, tout ce qui s'appelle en linguistique, enfin les diminutifs, c'est-à-dire que vous allez faire des variations sur le prénom en rajoutant, donc, par exemple, des suffixes différents.
Donc, et.
Voilà, et, exactement. Ou, c'est, par exemple, si on part de Géraldine,
oui,
on peut dire Géraldinou. Vous voyez, on
va. Ça m'est jamais arrivé.
Géraldinette. Non, j'imagine, c'est un peu long déjà, Géraldine.
Ouais. Didine.
Morphologie. Voilà, Didine, bien sûr.
Gégé.
Donc, redoubler, Gégé. Mmh. Le redoublement est une des façons les plus fréquente de faire un petit diminutif. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme du langage enfantin qui préside à ces rebaptêmes, très souvent. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants, donc depuis longtemps, ont été caractérisés dans leur langage par le redoublement, et donc doudou, etc. Et ils nomment aussi les objets par la qualité et l'utilité qu'ils vont avoir pour eux. Donc, c'est-à-dire que le doudou, c'est la chose qui est douce. Mmh. Et c'est intéressant parce que le terme doudou, justement, il vient de l'adjectif doux qu'on a redoublé. Donc, il y a dans tous ces bégaiements de la langue un besoin à la fois donc de dire qu'on connaît l'autre et aussi de l'appeler par d'une façon comme un nom de qualité qui dirait la qualité qu'il vous inspire et à quoi il vous sert en fait.
Mmh. Donc c'est pas si anecdotique ou cucu, gnangnan ou accessoire que ça, un surnom. En fait, ça dit énormément de choses.
C'est-à-dire, ça dit toujours beaucoup de choses au moment où il y a créativité linguistique. Vous voyez, les moments de sens, de signification. Enfin, où il y a du sens, c'est quand on a besoin de rebaptiser.
Par exemple, Géraldine, Gégé, Sébastien, Seb, c'est pas très créatif. C'est pas un moment créatif.
C'est parce que vous pouvez juste reprendre comme un code amical. Mm. Ça peut être un code si c'est déjà codé dans la vie, par d'autres gens et que vous reprenez quelque chose. Là, il y a vraiment une façon de signifier, voilà, j'ai repris le code, je suis ton ami, je t'appelle de cette façon. Mais dans le couple, oui, il y a beaucoup plus de créativité. Il y a souvent beaucoup plus,
De familiarité.
De familiarité et de sensations quasiment sensorielles, d'expériences, si vous voulez, qui sont véhiculées. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des noms tendres qui ont, par exemple, des métaphores animales, on en reparlera, mais qui montrent en fait l'effet que produit sur vous, mais fondamentalement est dans votre imaginaire la personne. Donc il y aura beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de variations, normalement, dans un couple. Et surtout, la créativité va rester active assez longtemps, a priori.
On ne se tient pas à un seul surnom,
c'est
par
ça,
exemple,
non, bah, a priori, non, vous déclinez, c'est-à-dire non, vous n'en avez qu'un seul.
Bah oui, moi, je suis assez stable.
C'est vrai?
Oui.
D'accord. Bah, ce qui est sûr, c'est que linguistiquement...
Bah, ça dépend, en fait, des relations, mais dans une seule relation...
Dans une seule relation, vous gardez le même...
Voilà.
Oui. Alors, moi, je varie. Mais non, ce que je voulais dire, c'est évidemment, ça dépend des personnes. Mmh. Ça dépend du rapport au langage. Mmh. Ça dépend du rapport à l'expressivité, c'est-à-dire la capacité à exprimer ses émotions, l'envie, le besoin de dire ses sentiments. Plus on est une personne qui a besoin de dire ses sentiments, plus on va créer des noms qui portent nos sentiments. Et en fait, oui, pour répondre très simplement à votre première question, à quoi sert le surnom? À marquer une différence d'avec le nom neutre. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée.
Mais il y a quand même un paradoxe sur ce surnom qui, effectivement, n'est jamais accessoire et marque une différence, mais aussi peut être extrêmement codé. Donc, on va parler du couple, notamment, mais par exemple, je pense aux surnoms aussi qu'on se donne entre collègues, qui vont être, en fait, comme des surnoms aussi, parfois, entre amis. Ça va être assez, en fait, simple à trouver, c'est pas très créatif. Le surnom, en fait, parfois, marque une différence qui est une différence paradoxale parce que c'est une différence qui est attendue.
Tout à fait. Et si vous parlez des codes donc professionnels, peut-être, c'est vrai que là, il y a quelque chose de l'ordre du rite d'initiation, quasiment. À partir du moment où vous employez les mots qui conviennent à un contexte, vous faites partie du contexte. C'est faire partie. C'est presque une norme. Donc là, c'est plus du tout un espace de créativité comme qui enregistrera les sensations et les sentiments. Là, il y a vraiment juste une. Vous marquez juste la connaissance du milieu linguistique, en fait. Et on est tous très forts pour s'adapter aux différents milieux linguistiques. On perçoit ces différences. Et évidemment, la façon de représenter l'autre est cruciale dans la constitution d'un univers qu'on partage, en fait.
Est-ce que c'est une manière de le représenter ou aussi presque de le réduire? On a parlé du diminutif, Julie Neveu. Le diminutif n'est pas un nom diminué. Il est même plus long. Il y a des et, il y a des o, il y a des redoublements. Mais par contre, c'est une manière quand même de saisir quelqu'un à tout prix et presque de le réduire à un tout petit nom, à une toute petite fonction.
Mais ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'appropriation qui est toujours réducteur, en fait. Pourquoi? Parce que c'est un élan, on va dire, humain très, très commun, qui est que de marquer la familiarité, enfin la connaissance qu'on a de quelque chose, de s'apprivoiser quelque chose, de faire que l'autre devienne mien, en fait. Mmh. C'est vraiment ce que fait le surnom, c'est de dire je connais cette personne, j'enregistre cette personne comme dans mon répertoire linguistique, en fait. Et c'est toujours plus rassurant, en fait. C'est une façon de créer nos repères, en fait. C'est-à-dire que le surnom va devenir un repère qui est rassurant. Et donc, on s'éloigne complètement de l'altérité que représente la rencontre avec une personne autre, vous voyez, qui constitue une rencontre, même si c'est un domaine dans un contexte professionnel et qui n'est pas du tout un contexte sentimental. On va avoir donc une personne qui nous est inconnue, elle nous est inconnue et la première accroche, la première approche de cette personne, c'est son nom propre. Et vous savez, c'est ce que dit le nom propre, il lui est propre. Ce qui est fascinant avec le nom propre, c'est qu'il est pas descriptif, il n'est peu descriptif, c'est-à-dire il ne donne aucune indication sur ce que la personne est en réalité. Et donc, c'est vraiment comme une porte entrouverte sur un monde nouveau que vous ne connaissez pas. Et on va avoir tendance, quand on commence à fréquenter quelqu'un, donc à vouloir ouvrir cette porte et rentrer dans la place.
Et comprendre tout de suite ce qu'il y a derrière ce prénom.
Voilà, comprendre tout de suite. Et donc le diminutif, c'est vraiment, ok, il n'y a plus de surprise. Mm. Ça enregistre, en effet, une façon comme aplatie. De représenter l'autre dans notre langage, quoi.
Alors, on va rentrer dans le vif de votre livre, Julie Neveu. Donc, ce livre qui s'appelle Le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture. Alors, justement, le moment de la rencontre, c'est le moment où se dévoile non pas un diminutif, non pas un surnom, mais le prénom. Et on en a un exemple ici.
Nous nous sommes déjà vus.
C'est la première fois.
Je savais que quelque chose d'exceptionnel allait arriver, devait arriver, mais ça, c'est tellement
beau. Mes mains sont toutes froides. Les vôtres aussi. Comme vos joues sont chaudes. Merveilleux.
C'est impossible à croire. Ce n'est pas une plaisanterie.
Je n'ai pas encore appris à plaisanter comme ça. Et je n'ai aucune envie d'apprendre.
Pas les pattes, Américain !
Nardo !
Ne t'occupe pas de ma sœur !
Ta sœur ?
Tu ne sais pas qu'il est de leur bande ?
Non.
Il y a surtout une chose qui les intéresse chez les filles portant
rien. Tu n'es qu'un menteur.
Putain, Tony.
Allez, va-t'en.
T'emmêle pas le chino.
Je t'en prie.
Conduis-la dehors, on va rentrer.
Nardo, c'est ma première soirée.
Maria, obéis, tu es ma sœur en route.
Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria. Maria.
Maria.
All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria, Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
Maria,
Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying.
Quand Tony rencontre Maria au départ, il ne connaît pas son prénom, c'est dans West Side Story. Et puis tout à coup, il entend ce prénom et il en vient à chanter son prénom. C'est ça le moment de la rencontre avec quelqu'un. C'est ce prénom qui reste, on passe la soirée avec cette personne et après, ne reste de lui que ce nom-là.
Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est n'importe quel prénom peut donner lieu à cet envolé lyrique.
Oui. Même Maria.
Voilà, Maria, bien sûr. Voilà. Mais tous les prénoms, en fait, à ce stade de l'histoire, donc et la rencontre à peine effectuée, on a, en fait, si vous voulez, une seule chose qui reste, et c'est le prénom, souvent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le prénom, à ce stade-là, vu qu'on connaît donc à peine la personne, ne renvoie pas, ou très peu, enfin minimalement, à la définition de ce que cette personne. Et c'est comme ça que les linguistes définissent les noms propres. Vous savez, on appelle ça des désignateurs rigides, c'est-à-dire qu'ils ne donnent aucune description du référent. Le prénom Géraldine, avant que je ne vous rencontre, ne m'informe pas du tout sur la personne que vous êtes, évidemment.
À la limite, il peut vous donner quand même quelques indications sur un milieu social.
Voilà, exactement. Marqueur social, voilà. Culturel, c'est à peu près tout. Et encore, ça dépend des époques, c'est très variable. Mais en effet...
Mon année de naissance, peut-être.
Voilà, des indications qui sont extérieures, évidemment, à ce qui intéresse le plus la personne potentiellement énamorée, à savoir des traits de caractère, renseigne pas du tout sur des caractéristiques. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour le nom propre, c'est que c'est une convention, bien sûr, et qu'il y a finalement deux moments dans nos vies où on éprouve cette sorte de flottement du nom propre, c'est-à-dire que cette personne aurait pu s'appeler autrement, vous savez. Donc, c'est les parents qui cherchent à nommer leur enfant à naître. Et évidemment, qui donne lieu à des débats parce qu'on se dit, mon Dieu, il faut que ce mot signifie. Mais évidemment, c'est aléatoire, c'est hasardeux et c'est nous qui sommes responsables. C'est très effrayant et impressionnant de devoir faire cette adéquation, vous voyez, entre nommer quelqu'un. C'est fort, c'est un geste, évidemment, quasiment de Dieu divin, quoi. Et y a le moment de la rencontre aussi où finalement, on va... ce prénom aurait pu être un autre. Il a été choisi par d'autres personnes. Et donc, le nom propre est vraiment à la fois... comme la preuve de l'existence, en fait, de l'autre. C'est-à-dire que c'est une réalité à son propos. Vous n'allez pas pouvoir le modifier. Donc, c'est le point d'ancrage d'une rêverie à ce moment-là, puisque c'est le moment où on n'a aucune connaissance qui a pu déjà nourrir notre sentiment, sinon, bien quelques traits, quelques échanges et un moment privilégié qui a été celui de la rencontre. Mais donc, dans le souvenir, dans le moment nécessaire à une histoire d'amour qui va être ce moment que Stendhal appelle la cristallisation, à savoir parer l'être réel, de qualité imaginaire à ce stade, eh bien, c'est vraiment le prénom qui est ce point d'accroche, en fait. Donc, il va permettre que se tisse notre tissu narratif, notre histoire, notre texte, puisque les histoires d'amour se définissent d'abord comme des histoires, c'est-à-dire comme quelque chose que j'ai besoin de me raconter. Alors, je fais une hypothèse dans le livre... Pourquoi on a besoin de se raconter des histoires d'amour? Je pense, et c'est pas une hypothèse, je pense, trop farfelue, ni peut-être trop géniale, je sais pas, mais en tout cas, parce que le sentiment amoureux étant un des sentiments qui nous déstabilise le plus, qui nous livre justement à l'aléatoire, à l'autre, qui est toujours un danger, l'inconnu, vous voyez, qui est déstabilisant, on a besoin de réinjecter du sens très vite, et donc on le fait en déployant un schéma narratif très très lourd, en fait. Parfois lourdingue, même si on a été gavé d'histoires, de romances ou de schémas.
Par exemple, si on rencontre un Roméo, voilà, là, on va le charger d'un sens très romantique.
Exactement, c'est-à-dire qu'on on projette des schémas très vite. Et le prénom est vraiment comme le premier mot de l'histoire d'amour. On construit autour de ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'écart, le grand écart parfois entre ce que la personne est réellement et son prénom, et surtout le fait que ce soit assez détaché, c'est-à-dire que le prénom donc n'est pas à ce moment-là référentiel, c'est-à-dire qu'il ne fait pas référence à la réalité, mais il est purement poétique. Si vous voulez, c'est comme si sa matière, ce qu'on appelle en linguistique donc le signifiant, qui n'est pas le signifié, c'est-à-dire sa matière sonore. Vous voyez, Géraldine, il y a le G, il y a combien de syllabes, le son in qui peut rimer avec, je ne sais pas, Féline, enfin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a, c'est le moment de la poésie, en fait. Oui. La rencontre, c'est le moment de la poésie et du chant lyrique, le lyrisme, vous savez, ce besoin de parler de soi. Et donc, on voit que l'élan lyrique s'adosse, trouve ce qu'il peut, en fait. Et ce qui peut
se raccroche
pour créer, et son point d'ancrage de travail, vous voyez, de retravail de la matière, vous savez, la poésie, c'est vraiment le retour sur revenir sur travailler le langage, ça va être finalement le prénom.
Mais le paradoxe, c'est que le prénom, comme vous l'avez dit, ça a été donné par quelqu'un d'autre, dont on ne sait rien. C'est vraiment le support de l'identité sociale, de l'identification. Ouais. Sur une carte d'identité, on a le prénom qui apparaît, et en même temps, ça va être la porte d'entrée à un nouveau monde, à un nouveau langage qu'on va peut-être pouvoir tisser avec l'autre.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe. Mais c'est sans doute parce qu'on est pauvre encore d'informations sur l'autre qu'on s'accroche à ce petit point. Mais je pense aussi que ça joue beaucoup ce que vous dites, à savoir que oui, l'ouverture vers un monde nouveau et l'altérité, c'est-à-dire quelqu'un d'autre a nommé cette personne. Et ça, en soi, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est la preuve qu'elle n'est
pas...
On
se dit, mais d'où ça vient?
Oui,
alors
c'est ça. C'est-à-dire que c'est même ce parcours. C'est-à-dire que le prénom... évoque aussi le parcours de vie, de il est, qui a été la, celui de la personne qui est nommée ainsi, peut-être aussi des marqueurs sociaux, culturels, des différences de civilisation, pourquoi pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout un imaginaire qui va se déployer à l'endroit du prénom, qui sans doute sera majoritairement fou ou totalement fantaisiste, on ne sait pas, et qui petit à petit, si l'histoire se déroule, va s'enrichir et se modifier, s'ajuster, vous voyez, engranger au fur et à mesure les connaissances qui sont des connaissances de la vie réelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus vous vous entrer dans la connaissance de l'autre, plus vous perdez ce rapport poétique au prénom de l'autre, plus le prénom va être simplement une façon fonctionnelle de s'adresser à l'autre, à savoir tiens Géraldine, est-ce que tu me passerais
du sel,
voyez, et je ne pense même pas, disant ça, au sens qu'a évidemment Géraldine, c'est-à-dire que ça va rentrer dans des interactions,
dans un langage courant, ordinaire,
qui ne marque que mon besoin que l'autre m'écoute, c'est-à-dire, alors qu'au début il signifie en soi, indépendamment. C'est ça qui est assez
beau. Ça veut dire que le prénom, tout à coup, lors de la rencontre, gagne en poésie, et une poésie qu'il va perdre au fur et à mesure.
C'est-à-dire, peut-être pas, mais disons oui, ce serait une tendance assez commune et banale. Et, vous voyez, que s'habituant.
Tout à coup, il retombe dans l'usage ordinaire.
Voilà, exactement. Et voire, il va être délogé comme étant peu intéressant, peu pertinent dans l'espace de nos conversations amoureuse, puisque finalement cette personne pour vous ne sera pas cette personne différente qui a été celle qui vous a séduit néanmoins au début, mais va devenir cette personne à qui vous adressez, qui vous inspire tel ou tel sentiment, de l'amour, mon amour, ma chérie, etc. et tout le reste. Et donc elle cessera d'être la personne autre, la personne que les autres ont façonnée avant vous. Vous voyez, vous refaçonnez la personne que vous aimez.
Mais comme quoi le prénom a quand même ce supporte quand même, c'est le lieu quand même d'un grand paradoxe entre la réalité sociale et même le retour à la réalité après le moment de la cristallisation et effectivement ce lieu du fantasme total. Ouais. C'est rarement dit qu'un prénom peut être un lieu de tel fantasme.
Mais c'est-à-dire que je me suis évidemment concentrée sur les personnes chez qui ça a provoqué cet élan, vous voyez, mais et peut-être tout le monde évidemment n'éprouve pas ça. Mais c'est vrai que c'est le seul moment, disons, de l'histoire où c'est propice. Et c'est propice parce que, comme je disais, c'est pas riche. Le prénom ne signifie rien à propos de la personne. Il ne donne aucune, il ne nomme pas en fait.
C'est vrai.
Il n'est que là disponible pour
c'est
vous en parler
du prénom.
Et vous déliriez à son propos. Oui,
c'est qu'il ne nomme
exactement
rien. En fait.
Il ne nomme rien.
Oui.
En fait, il est purement aléatoire. Et donc il est disponible pour vous l'approprier dans un délire. Peu réaliste souvent.
Et c'est comme quand on répète plusieurs fois aussi un nom commun, mais ça arrive aussi avec les noms propres plusieurs fois, on ne sait plus ce qu'ils signifient.
Bien
et
sûr,
il ne reste
exactement,
plus
il perd, oui, parce que là, vous retrouvez cette sensation qu'il n'y a plus que le signifiant et que le signifié est parti, c'est-à-dire finalement, voilà. Mais bon, il y a des scènes que je cite dans le livre qui sont des scènes classiques, magnifiques, moi j'adore, avec Jean-Pierre Léo.
Bien sûr,
voilà.
Fabienne Tabard,
donc qui répète Fabienne Tabard. Voilà, et comme une sorte de d'incantation, pour essayer, vous vous souvenez de ce passage, il essaie en fait de faire l'expérience de décider laquelle il aime.
Oui.
Et donc c'est un dilemme comme ça romantique. Et il pense qu'éprouvant la sonorité du mot, il va avoir un déclic, quoi. En fait, pas du tout.
Puisqu'il s'en mêle lui-même et il se tire les cheveux de détresse
devant
sa glace.
Exactement. Parce que le nom ne revoit rien d'autre que vous-même finalement. Vous voyez, à ce moment-là de l'histoire, puisqu'il, quand vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que là, je peux me repaître, il se repète ces sonorités-là, et il y a une expérience quasiment, sensorielle du prénom de l'autre, et qui, là, pour le même, lui vivant dans ses fantasmes, il a du mal à passer à la réalité.
Et puis il y a donc ça c'est la première étape, hein,
oui.
C'est l'étape du prénom, fantasme total, et il y a la deuxième étape, alors là on va quand même, donc on imagine quand même que ces deux personnes commencent à partager une intimité, et c'est le moment du je et du tu, du toi et du moi.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Des plans plus ou moins nets, comme les piqûres en cachette, l'alcool et les cigarettes. Il y a des pilules, des tablettes, des salades sans vinaigrette. Moi, je suis tout. je regrette, moi vouloir toi.
Deuxième étape du couple et du langage du couple Julie Neveu, c'est le moment du toi et du moi. On l'entend bien dans cette chanson de Françoise Hardy, chanson peu connue,
oui, peu connue,
voilà, peu connue, qui date de 1989, écrite par Louis Chédid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toi et moi, tout moi vouloir toi?
Mais en fait, c'est le moment où l'histoire d'amour donc s'est installée, qui a eu souvent. Vous voyez, là, l'histoire a été consommée, il y a une sorte de fusion physique et de dialogue intime et érotique. Et en fait, on remarque à ce moment-là, oui, les chanteurs, les chanteuses, les écrivains, les écrivaines se mettent à beaucoup mettre en scène un dialogue minimal et en fait en disant donc toi et moi et toi et bien sûr donc il y a une seule lettre qui diffère entre ces deux pronoms. Ce qui est intéressant avec ces pronoms, c'est que le pronom, vous voyez, il ne donne aucune information une fois de plus
donc
sur la personne.
Comme le prénom.
Alors comme le prénom. Une fois qu'on ouais. ne connaissait pas la personne, ouais. voyez, parce qu'une fois qu'on connaît la personne, le prénom vous dit relie à la personne qui existe.
Il dit ça, presque trop de choses.
Exactement, il dit trop de choses qui ne vous concernent pas. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on est un peu plus tard. On sait pas le lendemain de la rencontre qu'on dit toi et moi. C'est quelques mois.
Sauf coup de foudre.
Voilà, évidemment, bien sûr. Évidemment, sauf coup de foudre, ça peut être 3 heures plus tard.
Voilà.
Mais en tout cas, donc toi et moi enregistre vraiment non pas la rencontre et la première étape de la connaissance, mais la reconnaissance amoureuse. Vous voyez, on reconnaît l'autre. Et donc comme on reconnaît l'autre, on ne le nomme plus, mais simplement, vous savez, quand on dit tu, c'est le, ce qui est formidable avec je et tu, ce sont deux personnes qui n'existent que l'une en face de l'autre, que l'une en fonction de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a je que parce qu'il y a un tu, il y a un tu parce qu'il y a un je. Et en fait, si on va aller un peu plus loin, en plus, moi et toi, ce sont des formes qu'on dit fortes en linguistique parce que, alors que je et tu sont des formes faibles qu'on ne peut avoir que comme sujet. Donc je te parle, etc. Tu me parles. Mais alors que là, on peut dire je t'aime, virgule toi, c'est-à-dire et toi, je te veux, c'est-à-dire que toi va être ou moi vont toujours servir à un redoublement expressif. C'est-à-dire qu'à, en fait, c'est comme si le langage débordait du besoin de s'adresser à l'autre. Mais s'adresser à l'autre, non pas cette fois-ci en tant qu'il est quelqu'un d'autre que je ne connais pas, en tant qu'il est mon interlocuteur privilégié, le plus proche de moi, et que rien d'autre de lui ne m'intéresse que le fait que ce soit mon interlocuteur. Vous voyez, toi, c'est mon interlocuteur privilégié. Et en fait, on voit vraiment qu'il y a un passage à ce moment-là, souvent de l'histoire, entre la troisième personne que constituait le prénom de l'autre. Gérard, il, elle, Géraldine, et elle, ceci, cela.
Je croyais que vous m'appeliez Gérard.
Ouais, non, je vais bien compris. J'avais enregistré la connaissance de vous. Et en fait, donc le moment où on se débarrasse du prénom qui ne nous convient pas à ce moment-là, et la motivation profonde, c'est-à-dire la raison pour laquelle on utilise un mot, une façon de s'adresser à l'autre, enregistre donc ce dialogue, c'est tout. C'est le dialogue, ce suffit. Donc on a vraiment une forme de presque d'espace. Exclusif.
De bulle,
merci, de bulle, qui exclut exactement tous les autres qui ne concernent pas, qui ne sont pas pertinents dans ce que j'appelle une roucoulade dans le livre. Le moment où il y a que toi et moi qui se suffisent. Voilà, une autosuffisance du couple. Et en fait, c'est ce que j'ai appelé l'emploi romantique du toi et moi, mais évidemment, le temps passant, on va continuer à dire toi et moi, puisqu'on est sans arrêt dans une interaction, un dialogue qui est celui du couple. Et après, j'ai distingué aussi un emploi plus domestique, à savoir quand on rentre et dit « Coucou, c'est moi !» ou « C'est qui, c'est toi ?»« Ah, c'est toi !»« Ah, c'est moi !» Et donc là, c'est intéressant, parce que quelqu'un qui rentrerait dans la pièce, dire « Bah non, c'est la voisine. »« Ah bon !» Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes à qui on dit toi ou moi qui savent qui sait. Vous voyez, donc c'est quand même une sorte d'évidence qu'enregistre le dialogue.
Et c'est aussi des emplois qu'on peut faire, qu'on continue à avoir, même après une relation amoureuse avec quelqu'un qui a été très proche.
Exactement. Donc, et donc c'est pour ça, là, je parle de l'emploi,
comme ça,
de la gêne ou de la gênance, si on voulait avoir un... Oui, c'est-à-dire que ça va rester, mais ça va rester souvent... C'est-à-dire, quand deux ex-amants, amantes, deux ex-partenaires se disent « toi, comment ça va, toi et moi ?» Enfin, on voit que « toi », ici, masque l'impossibilité de nommer autrement, de savoir comment nommer. On ne sait pas comment nommer cette personne. On n'a pas envie, évidemment, on ne peut plus dire « ma chérie, mon chéri, en amour », évidemment. Mais néanmoins, on n'est pas prêt à revenir au prénom officiel parce que ce serait marqué trop de différence et d'indifférence. Vous voyez, c'est-à-dire marquer qu'on est revenu à cette personne et juste une personne avec qui j'ai une relation neutre.
Or, ça ne pourra jamais être le cas.
Ça ne pourra jamais être le cas, ou peut-être ça l'est après quelques années, on ne sait pas, ça dépend des gens. Mais disons que souvent, on s'aperçoit qu'il y a cet emploi qui perdure, l'emploi du « toi », comme adresse à l'autre, quelqu'un qu'on a aimé, parce qu'on n'arrive pas à le nommer autrement. Parce que, et donc là, ce qui est assez beau, c'est qu'on va dire que ce « toi-là », il est le dépositaire d'une forme d'intimité passée, dont on n'arrive pas à se débarrasser, donc il est un peu, il marque l'intimité en fait, mais il marque aussi la gêne, c'est-à-dire que l'incapacité à élucider et à nommer. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de nommer non plus, et que voilà, la personne qu'on a aimée reste toujours une forme de toi pour celui et celle qui a aimé. Quoi.
Donc il y a bien trois contextes d'usage,
trois contextes.
Donc il y a romantique, domestique, gêne, mais il y a toujours cette idée quand même de la reconnaissance et de l'impossibilité de nommer l'autre, ou enfin, en tout cas, l'idée de dire que le nom sera toujours insuffisant pour nommer la personne qu'on aime ou qu'on a aimé.
Exactement. Qu'en fait, ce qui existe, ce qui prime, c'est le lien entre ces deux personnes-là. Un lien qui est privilégié et exceptionnel.
D'où le toi et le moi qui ne marque qu'une bulle faite d'une relation.
Exactement, oui.
Barthes, dans les fragments d'un discours amoureux, à l'entrée Potin, dit « L'autre n'est pour moi ni il ni elle, il n'a que son propre nom, son nom propre. Le troisième pronom est un pronom méchant. C'est le pronom de la non-personne, il absente, il annule. Lorsque je constate que le discours commun s'empare de mon autre et me le rend sous les espèces exsangues d'un substitut universel appliqué à toutes les choses qui ne sont pas là, c'est comme si je le voyais mort, réduit, rangé dans une urne au mur du grand mausolée du langage. » Pour moi, l'autre ne saurait être un référent. Tu n'es jamais que toi. Je ne veux pas que l'autre parle de toi.
Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il reprend un peu Barthes la Barvéniste qui avait dit déjà que le troisième, qui est un linguiste, qui avait dit que la troisième personne, le pronom de la troisième personne était un nom, était une non-personne. Puisqu'en effet, elle peut ne pas exister. Et donc, ça peut être l'objet du discours. Donc, que Barthes exprime très bien là, c'est la douleur, l'agacement qu'il peut y avoir à ce que quelqu'un qui vous soit devenu intime et dont vous savez, vous, qu'il est un toi pour vous, c'est-à-dire bien plus et à la fois innommable, puisse être l'objet de ragots, de potins et donc de discours, et que les autres puissent construire des discours à son endroit, alors que vous, vous êtes le seul à avoir le droit de construire un discours à propos de la personne.
Et à détenir le secret.
Et à détenir le secret de la connaissance intime, etc. Oui, c'est...
Et donc, troisième étape, Julie Neveu, on va y passer. C'est le moment où, après le prénom, après le toi et le moi, il faut quand même nommer cette personne qu'on aime. Mais nous allons trouver le surnom qui lui convient, nous, au point parfois d'oublier son prénom.
Ça va être une magnifique journée, tu penses pas ?
J'en ai bien peur, oui.
Voici Daniel, mon ami très intéressant qui est sourd. Je l'ai trouvé au vernissage d'une galerie d'art étudiante. Il est fascinant. Il n'entend rien, mais il communique par le corps de manière fabuleuse grâce à ses lèvres, ses mains et tout. Oh. Ah oui, j'adorerais. Et voici mon extraordinaire amie Francine. Elle est lesbienne. Et voici Asif, mon ami bisexuel réfugié syrien. Que tu n'as jamais rencontré, je me trompe. Et Asif, voici... Oh mon Dieu. Voici... C'est quand même dingue. Je t'appelle toujours chérie, alors voici l'amour de ma vie.
Fleabag, saison 2, le moment où la marraine de Fleabag se marie avec son père et oublie en fait le prénom de son mari et dit effectivement, j'ai tellement l'habitude de t'appeler chérie que je ne sais plus comment je t'appelle. Alors ça, c'est la troisième étape du langage amoureux, Julie Neveu.
J'adore cette... J'ai cité ce passage dans le livre parce que je trouve ça tellement bien vu. Donc c'est Phoebe Waller-Bridge qui a fait Fleabag et qui a une sorte d'hypersensibilité à ce type d'évolution. Et c'est vrai que ce personnage, donc, joué par Olivia Colman, donc... les auditrices et auditeurs ont bien compris qu'il s'agit de son futur époux, qu'elle est sur le point de l'épouser, donc elle n'arrive pas à trouver, à se rappeler son prénom. Oui, donc j'ai décrit en effet comment la phase que j'appelle l'amour-possession, qui est une phase douce d'appropriation de l'autre, de tendresse un peu plaquée sur les murs du cocon domestique, conduit en effet à rebaptiser totalement la personne avec qui on vit souvent, parce que c'est le moment plutôt où on vit avec quelqu'un qu'on va se mettre à faire ça. Et donc il y a plusieurs phases à l'intérieur de cette phase de l'amour-possession, mais d'abord ce qui est intéressant c'est qu'il y a les noms de sentiments. Donc mon amour, mon chéri, ou alors l'amour de ma vie, là comme elle dit dans l'extrait. Donc là ce sont ce que j'ai analysé comme des figures de métonymie, donc en stylistique, la métonymie, vous savez, c'est quand on nomme une chose par quelque chose qui lui est proche, c'est-à-dire par contiguïté, par ressemblance, par analogie. Donc là, par exemple, eh bien la personne que vous aimez, que vous chérissez, devient mon chéri. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'on déplace un tout petit peu, elle représente... voilà. Et donc, c'est à la fois très tendre, et c'est... mais c'est une stabilité. On va dire que le langage donne une stabilité à vos sentiments. Donc ça crée un repère affectif aussi très puissant, très rassurant. Mais c'est vrai que le prénom officiel de l'autre, son existence, son indépendance est totalement masquée, oblitérée, diminuée, oubliée au profit du nom glorieux, de l'amour que vous inspire, du sentiment que vous inspire cette personne. Et donc on se retrouve en effet à ce qui est quelque chose de très banal. Hein. Je cite pas mal Annie Ernaux dans mon livre parce qu'elle a étudié ça, enfin disons, elle n'a pas du tout étudié ça de façon thématisée, mais elle fait des remarques par-ci par-là, notamment dans Passion simple, combien elle se rend compte, la narratrice dit à quel point elle était chanceuse de... garder tout le temps d'une histoire d'amour en tête que la personne qu'elle aimait était une autre personne qu'elle-même. Mmh. Voyez. Or, c'est vrai que dans l'amour fusion, qui est une manifestation, enfin, dont l'amour domestique est une manifestation, c'est-à-dire qu'on vit au même endroit, on est un peu plus ou moins la même personne, enfin, on est un couple, on est une entité qui existe, on est un nous, hein, un pronom. Et en fait, on s'aperçoit que là, voilà, on se met à projeter sur l'autre donc nos sentiments, et c'est une façon de se rassurer en permanence. C'est comme si l'amour, si vous voulez, au lieu d'être déclaré, il était implicité, il était dissimulé dans un rapport, une interaction linguistique. Ce qui suffit à beaucoup, mais ce qui est quand même différent du moment où on adresse véritablement pour la décrire le sentiment. C'est très différent de dire « je te chéris » que « chéris ». Passe-moi ceci, puisqu'il y a souvent une utilité justement qui vient ponctuer, enfin un rapport fonctionnel qui vient augmenter l'expressivité. Quoi.
Ce qui est paradoxal, c'est ce moment aussi où le surnom est à la fois vu comme un cadeau, c'est-à-dire quand l'autre nous appelle chéri, mon trésor, on se sent choisi, et de la même manière, on fait une déclaration à l'autre quand on lui dit chéri ou mon trésor ou autre, et en même temps, comme ça devient aussi un nom qui est presque aliénant, qui à certains moments peut nous devenir étranger et nous dire en fait, là à la maison, tu n'es pas Géraldine, tu es cette chérie et tu n'es pas la personne que tu es en dehors de cette sphère, ce qui est une manière aussi de dire que même chez nous, on peut avoir une identité qui nous est presque imposée par l'autre.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est ce paradoxe d'être à la fois une déclaration d'amour, donc implicite, et un geste de tendresse. On appelle en linguistique ces mots des mots hypocoristiques. Hypocoristique, c'est-à-dire quand ils expriment une intention affectueuse. Et comme on l'a vu, il y a plein de façons d'exprimer cette intention affectueuse. Ça peut être par ces noms de sentiments, mais ça peut être donc par les diminutifs et les petits suffixes qu'on rajoute à la fin des mots. Mais en même temps, il y a évidemment réduction, mais ne serait-ce que parce que vous n'êtes nommé que d'après le sentiment que vous inspirez à la personne avec qui vous êtes. Donc c'est tendre, mais évidemment, ce n'est pas l'entièreté de votre être. Et dès que vous sortez, vous refermez la porte de chez vous, pof, vous redevenez Géraldine. Vous êtes à la maison. Alors, c'est confortable et c'est très jouissif d'une certaine façon d'évoluer dans un univers linguistiquement cotonneux comme ça. Mais il faut remarquer aussi qu'il y a une forme, par exemple, de désexualisation qui se produit très tôt. Il y a une forme de domestication. voyez, de l'autre, j'aime bien la chanson de Brassens où il chante donc la chanson qui s'appelle « Je me suis fait tout petit » où il dit « J'ai transformé mes dents de loup en quenotte », quelque chose comme ça. Et je la cite dans le livre parce que le loup, c'est un bon exemple, je trouve, comme itinéraire à la fois linguistique et du sauvage au domestique. C'est-à-dire que le loup, cet animal féroce, en fait, le loulou, vous redoublez la syllabe. Mmh. Là, c'était d'ailleurs au 19e, enfin à la fin du 18e, un petit chien à long museau et à long poil, le loulou. Et en fait, ça donne loulou aussi, qui est un surnom qui masque la différence de genre, qui masque toute altérité, qui gomme. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, on va se lancer des chouchous, des doudous, des loulous, des chéris, mon amour, qui s'appliquent indifféremment aux deux partenaires. Donc, il y a une forme de petite, voyez, auto... comment un discours qui s'entretient comme ça dans la câlinerie ambiante qui fait du bien et à la fois qui nous fait disparaître en tant que adulte déjà puisque souvent ça imite aussi le langage enfantin et donc c'est des rapports qui n'enregistrent plus du tout qu'on puisse penser différemment, ne pas avoir besoin, envie à ce moment-là d'être nommé d'après un sentiment qu'on aurait pu inspirer. Vous voyez, et ce qui est très drôle, c'est de voir le décalage quand vous avez des disputes. Moi, j'ai assisté ça pas mal quand j'étais enfant. Des disputes entre adultes où vous avez des noms doux qui restent. Donc, chérie, vous m'emmerdez ou tu m'emmerdes, etc. Et on se retrouve avec cette sorte de discordance qui, évidemment, est drôlatique et à la fois... gênante si on veut la prendre au sérieux, c'est-à-dire que la personne a gardé la trace, est devenue linguistiquement, elle porte cette identité sentimentale, alors que vous êtes en train de lui adresser des sentiments violents, donc qu'est-ce qu'on fait ?
Mais en même temps, c'est bien parce que chérie, vous m'emmerdez, ou chérie, tu m'emmerdes, y a bien qu'en général qu'il y a une personne, en fait, qu'on pourrait être autorisé à le faire.
On pourrait éprouver simultanément de l'amour et de la haine, par exemple. Vous avez raison, c'est tout à fait à l'endroit d'une personne avec qui on vit qu'on peut éprouver cette ambivalence-là.
C'est souvent elle qui nous embête le plus facilement.
Tout à fait, on est d'accord.
Et à qui on pourrait se permettre d'ailleurs de dire là, tu vas trop loin, alors que quelqu'un dans la rue, ça va être beaucoup plus difficile.
Oui, vous avez raison. Bien sûr, ce sont des rapports qui cristallisent le maximum de sentiments et de sentiments à la fois positifs, à la fois négatifs, puisque forcément, on se frotte à cette personne, nous-mêmes étant vulnérables, puisque dans un endroit où on se dépouille de tous nos charges professionnelles, etc., de toutes les façons d'être qui sont des obligations dans le monde. Donc, on repose ça et là, évidemment, on est vulnérable. C'est pour ça aussi, je pense que tous ces mots tendres ont vraiment une utilité qui est de nous accueillir dans un espace un peu doux.
Mais ce qui est ambigu aussi avec la tendresse, c'est pas seulement qu'elle peut être aliénante, c'est aussi qu'elle est infantilisante. Vous avez quand même employé un certain nombre de termes, Julie Neveu, qui ne donnent pas envie d'avoir un surnom. Domestication.
Mais je fais exprès.
Infantilisation.
Je fais exprès pour faire prendre conscience de ce qui se passe quand même.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une vraie... En fait, il se produit pas seulement une marque affectueuse, une relation spécifique, ou alors si, en fait, une relation spécifique, mais une relation proprement ambivalente.
Tout à fait. En fait, j'essaie de mettre ça à jour dans le livre parce que je voulais montrer l'itinéraire du langage amoureux, c'est-à-dire une sorte de cycle dans le sentiment. Et je voulais montrer que parfois l'amour est aussi le nom de la possession. Et aussi, je parle beaucoup de la jalousie dans le livre. Et donc, je m'intéresse à la façon dont on se retrouve réduit dans un couple et que, de façon très dommageable, cette réduction... peut devenir un moment du couple totalement insupportable au point qu'on a besoin de partir. Et c'est vrai que les noms tendres font partie des phénomènes ambivalents parce que montrant ce désir de bienveillance, en fait, mais installant. En fait, c'est l'habitude qui peut être néfaste. Vous voyez, c'est le systématisme. Et en linguistique, dans le langage, dans les interactions verbales, c'est très très vite fait d'avoir des systématismes dans la façon dont on se parle. Et vers la fin du livre, je parle des scènes de ménage et de la façon dont on s'envoie des répliques qui sont toujours les mêmes. Et les noms, les petits noms font partie des rôles, sont les masques, si vous voulez, les identités des rôles qu'on se retrouve à jouer en permanence les mêmes. Et donc la question est, et il faut se la poser, est-ce que ça me convient ? Et si ça convient à tout le monde, tout va très bien.
Est-ce qu'on a vraiment l'occasion de se poser la question ?
Ben, il faut, on peut, en écoutant votre émission, par exemple.
Ma petite biche. Ma biche, où êtes-vous, ma biche ?
Elle est dans les bois, chef.
Il n'est jamais trop tard pour faire la cour à sa femme, ma biche.
Non, ma biche, Jamais elles ne verront l'homme qui sommeille en moi.
Oh, Cynthia, ma biche.
Ma biche.
Oh, ma biche.
Ma biche, je peux tout vous expliquer. Ma biche, je suis seul, je suis seul, je suis trop seul.
Mon ami.
Qu'est-ce qu'il y a, ma biche? Mais ma biche, ces messieurs ont raison. Allons-nous coucher, ma biche, cela va s'arranger.
Allô?
Ouais, chouchou, c'est moi.
Oh, mon loulou.
Ça va?
Oui, et toi?
Ouais, ça va, j'avais complètement oublié, ce soir j'ai une bouffe avec mes potes du foot, là.
Ah oui?
Ouais.
Ouais.
Je suis désolée, je vais sûrement en fait.
Gérard, arrête!
Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est parce qu'on fait un apéro, là, alors on n'arrête pas de s'éclater, c'est super sympa.
Ah, ouais, d'accord. Ouais, non, je disais, ce soir j'ai une bouffe avec les potes, donc je rentrerai sûrement tard, tu vois.
Ah bon?
Ouais.
Oh, bah écoute, c'est pas grave, moi je vais aller avec eux au karaoké, ça te dérange pas?
Non, non, je viens de me rappeler.
Gérard, écoute, arrête, je peux pas parler à Loulou. Oui,
ouais, il est lourd, il peut me laisser parler un peu, Gérard.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Bon, voilà, oui, je disais qu'en fait, je me suis planté, le repas c'était hier, quoi. Mais enfin, ce soir, je suis libre, quoi.
Voilà. Ah bon, t'es libre?
Ouais. Ouais, c'est pour ça.
Bon, bah écoute, je sais pas.
Ça te dirait d'aller au restaurant ce soir, tous les deux?
Bah ouais, pourquoi ouais. pas, écoute.
Okay. Bah je passe te prendre alors.
Bah oui, ça serait gentil, ça.
D'accord, ok. Ok, bon, on fait ça.
Ouais.
Eh, hey,
oui.
Je te fais rire aussi un petit peu moins, non?
Ouais, tu me fais rire,
ouais.
Ouais. Ah, Gérard, arrête.
Ok, bah à ce soir, alors.
Bah à ce soir, bisous.
Bisous.
Ciao.
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 Ma biche, chouchou, loulou, évidemment, hein, de la série Un gars, une fille, et puis les ma biche de la série des gendarmes par Louis de Funès, mais on pourrait aussi ajouter, on l'a dit, hein, chérie, mon cœur, mon amour, mon lapin, chaton, ma chatte, mon ange, mon trésor, ma puce, il y en a plein, en fait, des surnoms, oui. Mais chacun de ces surnoms, alors, posons la question, alors pourquoi ils sont tous un peu cucu? Déjà.
Eh ben, ils sont cucus parce qu'ils ne s'emploient que dans un contexte qui n'est pas un contexte où un contexte donc de familiarité gagatisante. Mais vous voyez, je suis obligée de dire des mots qui redoublent la syllabe oui. initiale. Donc, gaga, bébête,
ouais.
voilà.
Gnangnan.
Gnangnan, exactement, cucu, puisque en fait, ce sont des mots qui ont enregistré la façon dont un enfant. Désigne les objets. Voyez.
Mais pourquoi il y a cette intrusion en fait de l'enfance dans un langage amoureux?
Eh ben parce que c'est le même type. Vous savez qu'il y a aussi ceux et celles qui parlent à leur partenaire en disant bébé ou mon bébé. Donc vous voyez bien que là il y a une motivation que je disais de s'occuper de l'autre. De le chérir et qu'elle est prototypiquement dans nos interactions entre êtres humains la personne qui va cristalliser ce type de rapport, à savoir on s'occupe d'il ou elle, il est petit, vulnérable, on veut le choyer. D'ailleurs, choyer est peut-être étymologiquement à l'origine de chouchou. Chou et chouchou, oui, c'est une des hypothèses des étymologistes. En tout cas, c'est l'enfant, c'est le bébé. C'est le bébé qui symbolise le mieux ce type de rapport où on a envie de prendre soin. Donc en fait, c'est le côté familial et familial et donc pourquoi on imite? Parce que on baigne dans ce rapport qui est d'infantilisation et de tendresse choyante, protectrice, on va dire. On a envie de protéger.
Mais
on a envie de protéger l'autre.
Ce qui pose quand même cette question du choix, parce que de l'extérieur, en fait, un surnom, notamment dans le cadre amoureux, est toujours effectivement gnangnan. Et pourtant, on n'arrive pas à s'en prémunir.
Oui.
Donc il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de la spontanéité et presque de la convention qui est devenue une convention naturelle. Oui. On ne peut pas se passer de surnom de ce type-là quand on est amoureux, alors qu'on pourrait très bien, en fait, spécifier la relation d'une autre manière, en donant un autre surnom, en trouvant, par exemple, ou en marquant, en employant, par exemple, le « vous » pour honorer l'autre personne. C'est toujours, en fait, ces manières-là qui ressurgissent comme si, en fait, elles étaient naturelles ou en tout cas naturalisées.
En fait, ce qui est intéressant, et j'ai mal répondu tout à l'heure à votre question, vous disiez pourquoi c'est gnangnan et cucu,
mais oui.
c'est gnangnan et cucu seulement parce que vous jugez, parce que quelqu'un
voilà.
d'autre juge. C'est-à-dire que ce qui va paraître gnangnan et cucu, donc déjà c'est un jugement que vous faites sur une façon de se parler. Et pourquoi? C'est parce que parfois ces personnes sont tellement habituées qu'elles oublient que c'est un espace
un registre qui est peut-être convenable au sens premier, c'est-à-dire qui convient à l'espace domestique, mais que peut-être dans un espace amical ou dehors, ou en disant « chouchou, loulou, arrive !» comme Alexandra Lamy le fait si bien, en donnant des injonctions en permanence, en infantilisant et en traitant l'autre comme quelqu'un de petit et qui, à qui vous devez dire comment se comporter. Donc c'est déplacé, c'est-à-dire que souvent on oublie, et on oublie que en fait ce n'est pas le lieu de cette parole-là. Et donc elle paraît totalement déplacée, inappropriée. Et c'est cet excès, ce débordement d'affection, en fait, qui est jugé par un regard critique, évalué comme étant cucu et gnangnan, mais qui, dans le lieu naturel qui est le sien, c'est-à-dire peut-être s'il y a des enfants, peut-être dans une famille, ne pas du tout jugé ni perçu comme tel. Vous voyez, c'est une question de perception et de jugement. Après, vous dites c'est une convention, c'est naturel, etc. Je connais des couples qui se donnent très peu de surnoms. Je pense que ça dépend vraiment. Et vous donniez l'exemple du « vous ». Je ne sais pas là si ça doit être très très minoritaire, s'il y a des gens qui continuent à essayer de marquer une forme de relation spécifique, exceptionnelle, grâce à ce pronom de majesté. Enfin, c'est vraiment un marqueur social là très très fort, c'est-à-dire que je pense que ça ne se fait pas du tout, ou peut-être par jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi du jeu, j'ai oublié de parler de ça, il y a quelque chose de ludique. Et quant aux animaux, ce qui est intéressant avec les métaphores animalières, puisque c'est quand même, c'est qu'on convoque toute une expérience, toute une sensation. Quand on dit à quelqu'un mon lapin, évidemment, c'est souvent des animaux plus petits, parce qu'on ne va pas dire mon cheval ou ma vache, parce que c'est aussi des cultures qu'on véhicule, parce que dans toutes les cultures, il y a des clichés et les métaphores les enregistrent. Donc, en gros, ça permet quand même de donner un maximum de sensations en un minimum de mots, ces petits noms. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est une convention, parce que je pense que les couples résistent plus ou moins à ça et qu'ils ont plus ou moins de besoins affectifs. Après, une fois de plus, ce qui compte, c'est qu'on soit...
C'est pas une fatalité.
Pas du tout. C'est une tendance. C'est une tendance. Et en fait, comme partout, l'important, enfin, c'est-à-dire, j'imagine le seul critère pertinent pour savoir si ce type de langage est, convient toujours au sens neutre et non pas sans produire de jugement, c'est si les deux se trouvent satisfaits d'être ainsi appelés, en fait. Il n'y a aucun problème d'être complètement nunu et cancan. Cucu et gnangnan. À l'intérieur de son couple. Voilà, donc je l'ai dit.
Ok, très bien. Alors, je voulais juste sur le... Non, je voulais revenir à un truc sur le surnom. Non, en fait, ce que je voulais dire sur le surnom, c'est qu'en fait, c'était à la fois, en termes de convention, c'était qu'à la fois quelque chose, en fait, qui nous semblait toujours un petit peu accessoire, mais en fait, dont on pouvait pas se passer. C'est-à-dire que même si on peut résister, même si on peut se poser des questions, même si vous dites que c'est pas une convention, eh ben quand même, l'autre ou les autres vont attendre à un moment donné ce passage-là dans le couple, qui est que on va marquer la spécificité de la relation à travers le langage. Est-ce que la spécificité de l'amour peut se passer de langage ?
Ah bah non. Ah bah l'amour, c'est-à-dire il doit
être adressé... Je sais à vous êtes linguiste.
Ah oui, donc... mais évidemment, on va parler de mon métier. Moi, je dis que le langage sert à exprimer les émotions, déjà, entre autres, et que c'est le lien humain. Vous voyez, c'est un lien précieux, et peut-être... vous voyez, et donc, s'adresser à l'autre... Vous voyez, lui parler en permanence, il faut le nommer. Donc, vous avez besoin, en fait, de varier. Vous n'allez pas dire tout le temps, je ne vais pas dire Géraldine, Géraldine, Géraldine. Il y a que les politiciens qui font ça quand ils veulent dire autre chose, savoir attraper l'attention et peut-être... bref. Mais donc, on a besoin. Après, je ne pense pas que ce soit un attendu, une fois de plus. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on attend des nouveaux surnoms, c'est est-ce qu'on attend que l'autre me montre de l'affection. Et la réponse est, les mots, les surnoms font partie des moyens les plus évidents, les plus spontanés et les plus naturels pour exprimer de l'affection sans faire des grandes déclarations. Donc c'est pratique aussi.
Alors j'ai encore, encore deux questions. Ouais. Julie Neveu, vous avez encore le temps d'y répondre, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus banal qu'un chéri qui ne veut plus rien dire ?
Ah, un chéri, je croyais que vous me parliez de la personne.
Un chéri, Non, j'en parlerai pas ici, mais
un chéri ne
plaît. Par exemple, mon amour qui est vraiment mais vidé de toute substance, quoi. Mon amour descend les poubelles.
Vous aimez plus. Mon amour descend la poubelle. Ben, en fait, ça dépend comment vous le dites et comment vous l'investissez.
Mon amour descend la poubelle.
Mon amour descend la poubelle, s'il te plaît.
S'il te plaît.
C'est-à-dire qu'il y a du prosaïque et un mot qui mais porte la tendresse.
C'est le moment où l'amour, il y a quelque chose de pathétique, c'est-à-dire que ça se vide, quoi. Là, il reste plus que l'apparat de l'amour. Ben là, c'est le langage comme une peau qui se flétrit et qui reste comme un masque, en fait.
Ben, c'est-à-dire non, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, c'est une habitude, c'est un réflexe. En fait, c'est ça. Ma réponse, c'est plutôt que c'est de l'ordre du réflexe là, de dire mon amour. Et donc, c'est vrai que, mais pour
pourquoi ne pas l'adosser quelque chose de complètement prosaïque? Ça me dérange pas du tout, mon amour sort la poubelle. C'est-à-dire que non, enfin, je vois pas le problème. Le problème, c'est si vous éprouvez plus d'amour. En fait, c'est le seul problème. Et donc, d'ailleurs, on se retrouve parfois à avoir ces mots qui restent, qui flottent un peu à la surface de l'étang, voilà, qui est devenu trouble. Et là, vous dites, aïe, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est autre chose. Mais...
Et qu'est-ce qu'on fait des mots qu'on se dit, non pas lors d'une... Pas après la rupture, parce qu'on en parlait, c'est toujours toi et moi, mais lors d'une dispute ou lors de la rupture en tant que telle?
Ben,
comment les mots se transforment, comment les surnoms, ben, qu'est-ce qui reste des
moments, en fait, dès qu'il y a des moments solennels, si vous voulez, qui sortent de, du quotidien, que ce soit pour rejouer ce que j'ai appelé la métaphysique du couple, c'est-à-dire le moment où on décide si oui ou non ce couple a lieu d'être, en fait, il y a parfois les prénoms qui reviennent, c'est-à-dire qu'on a, on va pas forcément dire mon amour, mon chéri, on est très précautionneux par rapport à ce qui serait une déclaration implicite. Vous voyez, donc là, on va avoir, je pense, notre vigilance accrue par rapport au surnom et au nom, et on va essayer de nommer la personne selon la relation, le lien qu'on aimerait avoir à ce moment-là avec elle. Donc il y a une vigilance. Et après, je sais pas, selon les situations, on va peut-être éviter de dire mon amour, j'ai envie de te quitter, par exemple, même si
c'est pas pareil que mon amour descend les poubelles.
Non, c'est pas pareil. Là, c'est plus problématique. Ouais.
Et pendant les disputes, ce qui reste aussi d'invectives, de ouais, parce que là, vous avez dit, vous avez parlé tout à l'heure du cas de mon amour, tu m'emmerdes.
Ouais.
Là, c'est à la fois ce qui permet, le mon amour permet d'être aussi détendu pour invectiver l'autre, et en même temps, quand on veut marquer le rejet,
ce que j'ai remarqué que je trouve intéressant, c'est que dans les disputes, parfois vous avez tellement donc de colère ou de, vous avez une impulsion qui veut d'abord décharger donc la colère, et c'est plus du tout le lieu en effet de, vous ne savez presque plus qui est cette autre personne, et donc vous pouvez vous tromper dans les prénoms. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire défiler tous les prénoms de leur ex, vous voyez, genre, pourquoi? Parce qu'en fait, là, les habitudes reviennent et elles sont ancrées très profondément. Ça va être la première personne que vous engueulez, au moment où l'engueulez, qui va, le prénom de la première personne qui va revenir, vous voyez, c'est ça, c'est très, donc on se retrouve à donner des noms de frères et de sœurs ou de, vous voyez, on s'embrouille dans les prénoms tant ce n'est plus le sujet de s'adresser correctement à cette personne et de nommer cette personne, mais plutôt de lui reprocher quelque chose ou de, vous voyez. Donc là, il y a une confusion et en fait, tous les noms qui vont sortir seront souvent, à côté de la plaque, non pertinents, quoi.
Merci beaucoup Julie Neveu. De vous, on peut lire Le langage de l'amour, de la rencontre à la rupture, comment les mots révèlent nos sentiments, disponible aux éditions Grasset. Merci.
Merci.
Les petits noms qu'on donne aux enfants quand ils sont petits sont des chansons d'oiseaux dans le vent ou du gazouillis. Un bruit de source qu'on croit entendre, ils sont si beaux quand on les dit. Les petits noms qu'on donne aux enfants quand ils sont petits, riri, flonflon, nénette ou papa, jégé, nous zizi, ont des saveurs de baisers tendres. Les petits noms qu'on donne aux enfants quand ils sont petits, c'est une manie que les parents ont, une manie adorable, de donner à leurs enfants son, un tout petit nom à la maison. Mais quand trop court est déjà le substantif fait d'une seule syllabe, on le redouble cet instinctif pour former le diminutif. Paul fait Paul, Jean fait Jean, et Pépi se redouble aussi. Les petits noms qu'on donne aux enfants quand ils sont petits, noms tout mignons, loulou, fanfan, jojo ou titi.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure Dallet. Je le fais sans leur surnom. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Florent Bujon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.